18h. Linda Christelle Ballier.
Bonsoir à tous et merci d'écouter Radio de la Paix pour vous informer. À la une de ce 18h, drame à Abidjan ce matin avec l'effondrement d'un immeuble à la Riviera Palmeraie. Le bilan provisoire donne 18 victimes dont un décès et les secours sont toujours à pied d'œuvre pour sauver d'autres sinistrés. Le troisième sommet panafricain des jeunes des 54 pays d'Afrique s'est ouvert ce mardi à Abidjan sur le thème « Un avenir panafricain inclusif », la ZLECAF et le MAEP au service de la jeunesse. On en saura davantage sur la première journée avec notre reporter Jean-Claude Mabéa. Dans l'actualité sur le continent, au Nigeria, la grève générale sur le salaire minimum a été suspendue le temps de négociation. Et puis l'actualité, c'est également l'actualité internationale. C'est également le premier sommet Corée du Sud-Afrique qui s'est ouvert à Séoul ce mardi afin de dynamiser les relations politiques, mais surtout économiques, entre l'Afrique et la Corée du Sud. Voilà pour l'essentiel. Bonsoir à tous. Ce mardi, aux environs de 10h, un immeuble de type R+3 s'est effondré dans la commune de Cocody, précisément à la Riviera Palmeraie. Après barrage, la police, la gendarmerie et les sapeurs-pompiers militaires sont mobilisés pour sauver les personnes encore coincées dans l'immeuble. Écoutons ici les précisions du commandant Conan Alban, chef des opérations du groupement des sapeurs-pompiers militaires, arrivé sur les lieux du sinistre.
Il s'agit d'un effondrement d'un immeuble R+3 à usage mixte. Il y a trois niveaux en superstructure et un niveau en infrastructure. Nous avons été alertés et on nous a signalé provisoirement 18 victimes. Il faut noter que 16 victimes ont été déjà dégagées, blessées. Ouais, ces victimes sont vivantes, ont été prises en charge et évacuées au niveau de chute d'engrais. Nous procédons actuellement, après un périmètre de sécurité établi et puis consolider la structure du bâtiment, c'est-à-dire par des étayements avec l'unité spécialisée, nous procédons maintenant à la recherche des deux autres victimes. Il faut dire qu'on a déjà aperçu déjà une victime décédée, mais qui est déjà bloquée au niveau des porteurs. Donc nous procédons déjà au dégagement de la victime et procédons de manière simultanée à la recherche des autres victimes. Il faut dire qu'il y a une unité de sauvetage et développement, une spécialité du groupement des sapeurs-pompiers militaires qui est outillée à la matière avec une unité cynophile, c'est-à-dire une unité avec les chiens qui vont essayer de, ensemble, nous permettre d'essayer de rechercher, localiser des éventuelles victimes. Et donc nous sommes au stade de dégagement des deux victimes qui ont été déjà aperçues et pour pouvoir les dégager et puis procéder des recherches éventuelles sur les différents niveaux.
Vous écoutiez le commandant Conan Alban, chef des opérations du groupement des sapeurs-pompiers militaires sur l'effondrement de l'immeuble R+3 à la Riviera Palmeraie et il était au micro de Mel Emmanuel. Autre sujet, le troisième sommet panafricain des jeunes des 54 pays d'Afrique, un sommet organisé par le G54 Afrique qui porte sur le thème « Un avenir panafricain inclusif », la ZLECAF et le MAEP au service de la jeunesse. Ce sommet a démarré ce mardi 4 juin à la médiathèque de Yopougon, Niangon, et cette journée d'ouverture a été marquée par des communications suivies d'échanges, nous dit Jean-Claude Mabéa.
La première journée de ce troisième sommet panafricain des jeunes s'est ouverte par la session spéciale animée par le conseil technique du ministre de la Communication et vice-président du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement, le député Mbassou Ouattara Abbas. Sa communication a donc porté sur les différentes étapes d'une session parlementaire.
Les contours d'une session parlementaire, c'est une expérience à vivre parce qu'elle vous ouvre sur certaines réalités dans la vie de nos pays. La prise des lois, c'est une action tellement importante parce qu'elle impacte après la vie de tous les citoyens. Donc il ne faut pas que nous regardons en cela une promotion sociale, mais comprendre qu'être parlementaire est un sacerdoce. On vient pour servir la population et non se servir comme on le dit traditionnellement.
Et la seconde communication relative aux enjeux de l'accord de la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAF, a été faite par son chef de projet chargé du commerce numérique. Zou Boli Ange Désiré.
C'est un accord qui envisionne de faire tomber tout ce qui est barrière douanière, de réduire jusqu'à l'élimination les barrières non tarifaires constituant un principal frein donc à l'intensification du commerce ici en Afrique, afin de bien sûr favoriser ce commerce-là comme un facteur d'intégration pleine. Aujourd'hui, nous dénombrons 54 pays signataires et 47 ratifications.
À noter que les journées du mardi et mercredi sont consacrées à des travaux en atelier.
Et puis on parle de la première édition de la journée carrière des personnes en situation de handicap, dénommée Handicapable. Cette première édition s'est tenue le 1er juin dernier à Boisquié, initiée par la coordination des associations des personnes handicapées du district autonome de la vallée du Bandama. Cette activité a bénéficié du soutien de la coopération allemande, de la Société sans barrières et de l'ONG internationale de développement. En ligne donc de Boisquié pour le compte rendu, Joseph Assalé.
Cette journée carrière des personnes en situation de handicap, dénommée Handicapable, vise un triple objectif. Selon Koulibaly Daouda, le président de la coordination des associations des personnes handicapées du district autonome de la vallée du Bandama.
Le premier objectif, c'est de faire la promotion des créations des savoir-faire des personnes handicapées. Deuxième objectif, c'est de vendre cette création et ces talents qu'ils ont. Et le troisième objectif, c'est de veiller à l'application du décret que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a signé le 9 mai 2018 pour pouvoir embaucher les personnes en situation de handicap à l'emploi. À 100 employés, il faut prendre 1% une personne en situation de handicap. À plus de 100 employés, il faut pouvoir prendre 2% des personnes en situation de handicap.
Ouattara Ibrahima, de la direction régionale de la protection sociale de Boisquié, dresse le tableau suivant.
Il faut constater qu'il y a une grande marge qui est encore en dehors de la formation professionnelle et en dehors de l'emploi. Que certains fluviaux doivent changer de paradigme sur le handicap. Le handicap, c'est pas une fatalité.
Une éclaircie cependant dans cette grisaille a rassuré Atta Ebé Constant, le directeur régional de l'enseignement technique de la formation professionnelle et de l'apprentissage de Boisquié.
Aujourd'hui, nous avons des élèves en situation de handicap qui suivent des formations professionnelles dans nos écoles.
Notons que des expositions d'art, de couture, de produits médicamenteux confectionnés par les personnes handicapées ont meublé cette journée carrière handicapable. Joseph Assalé, Boisquié, Radio de la Paix.
On poursuit cette édition avec la levée de fonds initiée par la mairie de Boisquié afin de financer ses projets productifs et dont le lancement a eu lieu hier à Abidjan. Sur la nature et le contenu de cet engagement du maire Amadou Koné et son équipe, suivons les explications de Kadi Fadiga Koulibaly. Elle est la directrice générale de Hudson & Company, spécialiste des bourses, également partenaire dans ce projet.
Une levée de fonds, c'est un processus qui permet de financer des projets. Le cadre dans lequel nous sommes ce matin, c'est par le marché financier régional. Et donc, c'est d'emprunter auprès d'investisseurs présents sur notre marché financier de l'UEMOA. Et ces investisseurs-là sont ceux qui collectent l'épargne dans l'UEMOA, donc les banques, les compagnies d'assurance, les caisses de retraite, qui sont aujourd'hui les investisseurs pour des projets, et notamment ce projet de la mairie. Il y a deux avantages principaux. Le premier, c'est la diversification des sources de financement, parce qu'on ne peut pas aller chercher de l'argent à un seul endroit. Si jamais ce n'est pas possible, on est en risque. Le deuxième intérêt majeur, c'est la maturité, c'est-à-dire que à la banque, la mairie sera capable d'emprunter sur des maturités courtes et sur le marché financier, on peut aller sur des maturités très longues. Donc pour financer des projets qui sont rentables à long terme, il vaut mieux avoir du financement à long terme. Et seul le marché financier peut permettre d'aller à 15-20 ans. Par rapport au projet ambitieux de construire une base logistique, mais également une gare routière moderne, je ne vais pas donner le montant, mais le montant est conséquent.
À l'instant, Kadi Fadiga Koulibaly, directrice générale de Hudson & Company, spécialiste des bourses, également partenaire dans le projet de levée de fonds pour le financement de projets productifs de la mairie de Boisquié. Dans le secteur maritime, plus rien ne se fera en dehors du manuel de procédure édité par le ministère délégué auprès du ministre des Transports chargé des Affaires maritimes. Ce manuel de procédure a été présenté hier lundi par le ministre Serrédo Célestin lors de sa visite de travail à la région maritime Est dans la commune de Grand Bassam et ce, dans le cadre de sa tournée aux arrondissements maritimes débutée le 23 avril dernier à San Pedro. Les détails avec Jean-Mélène Bitti.
Lors de cette visite du travail, le colonel Moulaye Koné, directeur régional maritime Est, n'a pas manqué d'égrener quelques difficultés auxquelles ils sont confrontés.
Il s'agit d'un conflit de compétences et en rapport avec le domaine public maritime. Nous avons soumis ce problème à monsieur le ministre parce que depuis près de 2 ans, nous avons du mal à faire le recouvrement de cette redevance. Les difficultés, c'est l'acquisition de matériel naval, de moyens de dissuasion.
Le ministre Serrédo Célestin Destin a insisté sur l'appropriation par les agents des affaires maritimes du manuel de procédure pour une affaire maritime performante.
Ce document doit être considéré et utilisé comme une boussole, un bréviaire, un guide, non seulement pour harmoniser les pratiques ou opérations, mais aussi pour minimiser les risques d'erreur.
Le ministre en charge des affaires maritimes s'est saisi de l'occasion pour annoncer les avancées notables pour son ministère.
Premièrement, la signature par le président de la République de l'organigramme de notre département ministériel consigné dans le décret 2024-274 du 8 mai 2024 portant organisation du ministère délégué auprès du ministre des Transports chargé des affaires maritimes. L'érection des antennes maritimes d'Assini, de Bengerville et de Fresco en arrondissement.
La présentation des procédures des services déconcentrés du ministère délégué aux affaires maritimes était aussi au menu de cette visite du travail.
Et dans le district du Bassa-Sandra, les acteurs du secteur du tourisme ont vu leur capacité renforcée à travers des activités lancées hier à San Pedro. L'objectif est de maintenir la flamme de la qualité après la canne jouée en Côte d'Ivoire afin de continuer à promouvoir la destination sud-ouest du pays. Les détails avec Kofi Benson, notre correspondant dans le Bassa-Sandra.
Maintenir la qualité de l'offre dans le secteur du tourisme dans le district du Bassa-Sandra nécessite des dispositions, dont la formation, selon Kofi Suzanne, directeur régional du tourisme à San Pedro.
Nous savons que la qualité ne peut être obtenue sans la formation. Donc, on a un programme de formation sur toute l'année. Nous attendons que les hôteliers, les restaurateurs adhèrent à ces formations, qu'ils comprennent le sens de la formation, aussi le sens de la qualité de l'offre et qu'ils comprennent que si leurs agents sont bien formés et que l'offre est de niveau, la destination San Pedro sera forcément une destination privilégiée en Côte d'Ivoire.
Le groupe Essor assure la formation de ses acteurs de l'hôtellerie et de la restauration à San Pedro depuis plusieurs années. Pour son directeur général Kaku Esso, la formation est la clé du succès après la canne, tout comme avant la canne.
Si vous devez vous former par le biais du fonds de développement de la formation professionnelle, il faut que vous soyez une entreprise constituée en payant donc les impôts régulièrement. En tant que privé, vous sortez l'argent pour vous former. Et puis aussi, nous avons des projets collectifs qui peuvent regrouper les jeunes et chercher une institution pour financer ses formations. Quand un individu est bien formé, on a gagné. Celui que nous sommes en train de faire, c'est une formation post-CAN, parce que la flamme doit être maintenue. C'est vrai que le temps ne m'a pas reconnu en tant que tel, mais nous avons été les acteurs de la notion de la CAN d'hospitalité. Je suis très satisfait, surtout pour ce qui s'est passé sous notre initiative. On a eu à débourser près de 60 à 80 millions dans le cadre de ces formations, puisqu'on a offert des formations gratuites à San Pedro ici et puis à Korogo. Et c'est ça qui a créé l'engouement.
Ce sont 82 agents issus de 53 entreprises qui bénéficient de cette formation de 2024. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Rendons-nous à Yamoussoukro où la centrale de Cajou, Fédération nationale des unions de sociétés coopératives des producteurs de la filière Anacarde de Côte d'Ivoire, a procédé mi-mai à la remise de matériel bureautique aux 19 unions régionales des sociétés coopératives et producteurs de noix de cajou. Ce sont plus de 60 millions de francs CFA de matériel informatique et bureautique qui ont été remis pour accompagner la structuration de ces unions régionales. On en sait un peu plus dans la correspondance d'Emile Yao.
Le président de la centrale de Cajou, Fédération nationale des unions de sociétés coopératives des producteurs de la filière Anacarde de Côte d'Ivoire, Soro Bay.
Nous sommes ici pour pouvoir accompagner, on va dire, la structuration de nos unions régionales qui étaient initialement installées. On a voulu rehausser l'image de ces installations qui aussi reflètent l'image de la filière. L'objectif pour nous, déjà, c'est d'inviter les producteurs à se mettre dans le train du développement qui a été initié par le président de la République à travers le développement du monde agricole. Et pour nous, notre manière de contribuer, sinon de participer à cette politique.
Le président Soro Bay et son équipe comptent poursuivre ce processus d'accompagnement à l'effet d'aider les producteurs à optimiser leur exploitation.
Après la structuration, l'étape suivante sera la mobilité pour permettre l'accès facile à l'ensemble des producteurs par nos unions. Après avoir traité la question de la mobilité, on va passer dans la dernière phase qui est l'industrie primaire par la mise en place des unités de décorticage et de transformation de la pomme.
Le représentant du ministre de l'Agriculture, Kwasi Kwaku André, salue salue l'initiative de la centrale de Cajou et invite les récipiendaires à un meilleur usage des kits reçus.
Je voudrais vraiment inviter les responsables des UR à faire bon usage de ces matériels. Donc, vous avez là du matériel qui doit vous motiver davantage, qui doit vous témoigner de l'affection que ceux qui sont devant vous là ont pour vous.
Les bénéficiaires, de par la voix de leur porte-parole, ont exprimé leur gratitude et engagement à aller de l'avant pour le rayonnement de la filière Cajou. Émile Yao, Yamoussoukro, Radio de la Paix.
Dans l'actualité sur le continent, au Nigeria, la grève générale sur le salaire minimum a été suspendue le temps de négociation. Il s'agit d'une pause d'une semaine pour permettre aux négociations de parvenir à un accord. C'est ce qu'ont annoncé ce mardi à l'issue de leur réunion le Nigeria Labour Congress et le Trade Union Congress, les deux principales confédérations syndicales du pays. Leurs représentants ont été reçus hier soir à Abuja par le ministre d'État du Travail et celui de l'information. Ensemble, ils ont signé un document portant plusieurs résolutions, à savoir qu'aucun gréviste ne doit subir de représailles, et aussi les syndicats et le gouvernement vont se rencontrer tous les jours de la semaine. Toujours en page internationale, parlons à présent de la coopération entre la Corée du Sud et les pays africains. À cet effet, le premier sommet Corée du Sud-Afrique qui se tient du 4 au 5 juin 2024 s'est ouvert aujourd'hui à Séoul, la capitale sud-coréenne. Le président sud-coréen a d'ores et déjà annoncé plusieurs milliards de dollars d'aide et de soutien à l'investissement pour l'Afrique, et cela dans un contexte où ce pays asiatique cherche à renforcer ses relations commerciales avec le continent africain et son approvisionnement en minerais critiques. On suit les détails avec Jean-Claude Mabéa. Jean-Claude Comé.
Le pays s'engage à accroître l'aide et les liens miniers avec l'Afrique. Axe de coopération que propose le président sud-coréen, c'est le renforcement de la coopération sur les minéraux et les technologies critiques, avec pour objectif d'améliorer la résilience de la chaîne d'approvisionnement du pays dans des secteurs clés tels que les batteries. Et acte concret pour atteindre cet objectif, c'est l'augmentation de l'aide publique au développement de la Corée aux pays africains à environ 10 milliards de dollars jusqu'en 2030, soit plus de 6 000 milliards de francs CFA. De même, cette aide publique au développement vise à encourager le commerce et les investissements sud-coréens en Afrique. Et dans ce sens, la Corée du Sud fournira 14 milliards de dollars de financement à l'exportation, soit plus de 8 000 milliards de francs CFA. Il faut noter que pour l'instant, les échanges entre la Corée du Sud avec les pays africains représentent moins de 2% du total des importations et exportations. Il faudrait donc augmenter ce pourcentage, d'où l'intérêt que portent les dirigeants africains à ce premier sommet du genre. En effet, des représentants de 48 pays africains, dont 25 chefs d'État, participent à ce sommet de deux jours qui a pour thème l'avenir que nous construisons ensemble, croissance partagée, durabilité et solidarité.
Merci à vous Jean-Claude Comé pour ces précisions, et cette information met un terme à ce 18h dont voici le rappel des titres. Drame à Abidjan ce mardi matin avec l'effondrement d'un immeuble R+3 à la Riviera Palmeraie. Le bilan provisoire donne 18 victimes dont un décès selon le commandant Conan Alban, chef des opérations du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Les secours sont toujours à pied d'œuvre pour sauver d'autres sinistrés. Et puis le troisième sommet panafricain des jeunes des 54 pays d'Afrique s'est ouvert ce mardi à Abidjan sur le thème « Un avenir panafricain inclusif », la ZLECAF et le MAEP au service de la jeunesse. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Très bonne suite de programme à l'écoute de Radio de la Paix. Tout de suite, votre magazine Mon Droit au quotidien, piloté par Aoussi Potin.